La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots avec sa puce aujourd'hui, puisque dans une vingtaine de minutes, Lucie Bouteloup va nous la proposer, sa puce à l'oreille. Et puis auparavant, l'émission va s'intéresser à l'esclavage, à la mémoire de l'esclavage. On est à la fin du mois de mai, un mois qui bien souvent se souvient de ce problème. Le 27 mai est la date choisie pour commémorer l'abolition de l'esclavage dans l'île de la Guadeloupe. Le 10 mai est une journée plus générale qui est consacrée à cette commémoration. Alors, j'ai rencontré deux intellectuels dont les travaux récents s'intéressent justement à la mémoire de l'esclavage. Fanny Glissant, qui est documentariste et qui, avec toute une équipe, vient de consacrer 4 films à cette mémoire, les routes de l'esclavage. Et puis aussi Patrick Chamoiseau. Patrick Chamoiseau, c'est un écrivain bien connu, un romancier. Il a eu le prix Goncourt en 92 pour Texaco. Et puis récemment, il a publié Les contes des sages créoles. A priori, des contes qui n'ont pas un rapport direct avec la situation des Noirs esclaves. Et pourtant, si on veut vraiment les comprendre, ces contes qui datent de la période coloniale, c'est-à-dire de l'esclavage, eh bien, il faut se souvenir ce qu'était la vie de ceux qui les ont contés à l'époque. Alors c'est tout un travail qu'il a effectué pour essayer de collationner, pour essayer de se faire raconter des contes qu'on raconte en général à la campagne, qu'on a raconté à lui qui est un homme des villes.
Je suis né à Fort-de-France, donc je n'ai pas vécu la réalité des plantations. Je n'ai pas connu de veillée mortuaire où les conteurs généralement parlaient. Donc je me suis retrouvé dans la situation de devoir aller à la recherche de ma bibliothèque fondatrice. Puisque vous savez qu'aux Antilles, la culture créole est d'abord orale. Donc je n'ai pas de bibliothèque dans mon univers fondateur. J'ai une oraliture, pas de littérature, une oraliture. Donc il fallait, à un moment donné de ma vie, quand je me suis préoccupé de ces questions d'écriture, j'ai dû aller à la rencontre des conteurs et des contes. Et là, donc, j'ai dû me plonger dans les travaux qui avaient été réalisés par des anthropologues, Ina Césaire et autres, qui ont fait un travail remarquable et qui ont recueilli un certain nombre de contes traditionnels et qui les ont interprétés.
Alors, vous étiez déjà de l'autre côté du filtre, d'une certaine façon. Ça avait été collecté par des gens qui s'intéressaient aux contes, même si eux-mêmes ou elles-mêmes étaient bien sûr d'origine antillaise, pas tous, mais beaucoup d'entre eux.
Alors oui, c'est ça la grande, la tragédie d'une certaine manière, parce que tout ce qui nous garde, que nous avons gardé, que nous avons recueilli des plantations esclavagistes originelles, sont des contes qui, d'abord, qui étaient oraux, donc qui se répétaient avec toute la déperdition qui peut exister quand une société pratique l'oralité, mais qu'elle n'a pas ritualisé l'oralité comme dans les tribus africaines, les pays africains. Quand l'oralité est vraiment une institution sociale, tout le système de transmission est beaucoup plus complet, élaboré, même s'il y a des pertes, alors que chez nous, de génération de conteurs en génération de conteurs, on a perdu beaucoup de choses. Ce qui fait que ce qu'on a pu recueillir, ce sont des choses qui ont été retranscrites, soit par des voyageurs, soit par des prêtres, par ceci, par cela, etc. etc. Mais donc, j'ai beaucoup travaillé ce qui a été recueilli à l'écrit, donc je n'ai pas entendu ces contes précisément. Mais à un moment donné, j'ai dû faire aussi des films et je suis allé à la rencontre des conteurs survivants, les plus anciens conteurs. Et là, j'ai aussi entendu leur manière de conter. Ce n'est pas les mêmes contes qui étaient recueillis, ça avait un petit peu évolué. Mais leur manière de conter, les entendre raconter en créole, c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire.
Là, alors, ça change tout alors ?
Ah oui, ça là, on comprend une dimension que le livre ne peut pas. Il y a une rapidité, il y a le fait que c'est un spectacle total.
Oui, et il y a l'échange avec l'auditeur. Il y a le fait que le conteur est là pour réveiller l'auditoire, pour lui parler et savoir si l'auditoire vibre à l'unisson de ce que dit le conteur.
Voilà, c'est-à-dire que là, chaque conteur a une petite structure narrative, une structure narrative très simple, hein. Mettons un canevas. Et à partir d'une canevas du conte, il entre en dialogue, mais vraiment en dialogue sensible avec le public. Et en fonction des réactions du public, il va développer telle ou telle partie, accélérer, introduire des chants, faire des mimiques. Enfin bon, c'est une réalité vivante. L'oralité, c'est pas simplement parler. L'oralité, c'est exprimer. Ce sont des gestes, ce sont des captations d'instants, ce sont des créations d'atmosphère très, très singulières. Et ça, on l'a perdu, malheureusement. Alors, par contre, il y avait une très, très grande liberté du conteur. Liberté parce qu'il fallait qu'il s'adapte et qu'il vive l'instant avec un public, mais liberté parce que chaque conteur apportait au canevas initial sa touche. Alors je me suis dit, pourquoi pas ne pas reprendre le canevas et puis moi aussi délirer et raconter les trucs à ma manière.
Mais c'est un délire particulier puisque c'est un délire écrit.
Oui, parce que ce qui caractérise les cultures antillaises, c'est que ce sont des cultures de survie, et pour survie fondamentalement, contester fondamentalement la situation esclavagiste, les esclaves sont entrés en création. Ils ont dansé, ils ont fait de la musique et ils ont raconté. Mais en racontant, ils n'avaient pas le fond traditionnel que, par exemple, qu'un griot ou qu'un conteur africain peut trouver. Ils n'avaient rien, tout était table rase, donc il fallait tout recommencer. Donc ils ont improvisé. Alors ce qui fait que l'improvisation est à la base de notre création musicale. Le jazz, on ne peut pas comprendre le jazz si on ne comprend pas que ce ne sont pas des partitions collectives qui sont exprimées, mais que chaque musicien exprime son improvisation qui est son expérience singulière. Ce qui fait que les conteurs improvisaient sur un canevas qui se cristallisait d'année en année, et moi aussi j'ai improvisé à ma manière.
Alors, les anecdotes, les histoires sont extrêmement nombreuses. Est-ce que de temps en temps, vous avez l'impression qu'on a le même fil narratif, ou en tout cas la même structure ?
Ah oui, bon, ce qu'on a identifié d'abord, c'est que ce n'est pas une approche collective. Les contes qui naissent dans les plantations esclavagistes contestent le système esclavagiste, mais à aucun moment on n'entendra le conteur dire « prenez vos coutelas, coupez la tête du maître ». En revanche, on aura toujours un esclave plus petit, plus malin, plus machin que les autres, qui va se débrouiller, vaincre des obstacles et qui va arriver à se sortir de là et surtout arriver à manger, parce que l'autre trame qui relie tous ces contes, c'est que les esclaves étaient affamés, ils ne mangeaient pas suffisamment. Et dans les contes créoles, on ne trouve pas de trésors, de diamants, de choses comme ça, ou même de l'amour, on trouve véritablement à manger. Et le happy end, c'est toujours un grand festin avec beaucoup de victuailles, etc. Et puis l'autre élément, c'est que le conte créole est complètement amoral. C'est-à-dire que, comme la morale, le bien...
Oui, parce que c'est une donne extrêmement fréquente dans les contes, en tout cas occidentaux, qui a une moralité. Dans les contes créoles, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas d'explicite, en tout cas.
Il n'y en a pas. C'est sauf ta peau, débrouille-toi, il n'y a pas de bonne fée, il n'y a pas de prince charmant, il n'y a pas de créature qui vienne à votre secours, il n'y a rien qui incarne la douceur, la tendresse ou le bien. Tous ce sont des monstres, tout vous menace, c'est extraordinaire. Parce que le petit esclave qui, de veiller en veiller, va entendre ça, il va vivre dans un univers, on lui dit, fais gaffe, il y a des monstres partout. Il n'y a pas un seul endroit sur Terre où tu ne vas pas trouver une créature qui est prête à t'avaler, à te réduire ensemble. Donc, tiens-toi prêt et débrouille-toi pour survivre.
Donc, non pas un éloge de la révolte, mais un éloge de la débrouillardise, et une débrouillardise qui dit à l'auditeur, t'es seul au monde. Tu ne peux compter sur personne.
Tu ne peux compter sur personne. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que ça nous donne le signe quand même de ce qui va caractériser ces nouvelles populations antillaises, c'est-à-dire que ce sont des communautés d'une très grande modernité d'une certaine manière, parce que l'esclave africain qui est capturé, qui tombe dans la cale du bateau négrier, disons qu'il a une dissolution totale de toutes ses certitudes. Ses dieux, ses cosmogonies, ses mythes, ses scarifications, ses croyances, tout ça, rien ne peut expliquer ce qui se passe dans la cale du bateau inégrier. Et quand il sort de là, comme si tout était effondré, il doit tout recommencer. Et quand il doit tout recommencer, il va entrer dans un processus de réhumanisation sans faire tribu, sans faire clan. Sapiens, lorsqu'il a commencé à s'organiser, il y avait des petits groupes comme ça, etc. Alors que dans la plantation, c'est presque solitairement. Toute la journée, l'esclave, il est dans sa tâche, il est seul, etc. Et les seuls moments où on se rejoint et on commence à s'asseoir, c'est autour d'un mort avec un conteur, et c'est le seul moment où un semblant de communauté apparaît. Non, ce sont des communautés d'individus, ce qui ressemble un peu aux sociétés contemporaines où on a des sociétés d'individus, puisque le processus d'individuation est tellement développé aujourd'hui qu'on n'a plus ces masses mon pays, ma langue, ma culture, mon histoire. On a des pays multitransculturels, on a des gens qui sont de plusieurs origines, qui naissent entre plusieurs langues, plusieurs histoires, on a beaucoup beaucoup de métissage biologique, culturel. Enfin, on est dans une réalité que les esclaves ont anticipée. Donc, cette espèce de solitude, c'est assez particulier parce que dans la culture créole, il y a un processus d'individuation. La personne est seule. Elle se construit avec les autres dans des rituels, des moments très précis où on sort de sa solitude pour aller rejoindre les autres. Donc, on a beaucoup de rituels. D'abord, l'éveillé, et on a les rituels, ce qu'on appelle des coups de main, où de manière très régulière, les gens se rassemblent pour aider l'autre à construire sa case. Quand on a fini, chacun retourne à ses tâches, etc. Donc, une espèce d'individuation qui est solidaire. On est à la fois solitaire et solidaire, mais on n'est pas en communauté fusionnelle. La conscience collective communautaire, elle se crée par des récits. Donc, dans une communauté traditionnelle archaïque, la communauté se raconte des histoires, elle se raconte une création du monde, une cosmogonie, un mythe fondateur, et puis elle se raconte l'histoire de la communauté. Et ça fait un absolu identitaire, culturel, religieux, linguistique. Alors que le conte, c'est l'équivalent du mythe fondateur pour les peuples anciens. Pour nous, c'est le conte. Le conte est fondateur d'une communauté nouvelle, mais une communauté très particulière, parce que le conte est composite. Il est fait d'éléments qui viennent des Amériques, qui viennent de l'Afrique, qui viennent de l'Europe et qui viennent de l'Asie. Et le conte, il s'adresse à des individus. Il n'offre pas de valeur collective, entre guillemets. C'est toujours des processus très, très particuliers. Donc, c'est d'une grande modernité, d'une certaine manière.
Patrick Chamoiseau, un mot sur la langue. Bien sûr, ces contes, que ce soit à travers les travaux d'anthropologues ou bien vers les conteurs que vous avez trouvés, tout ça s'est fait en créole. Est-ce que quand vous entendiez cette langue, c'était du créole contemporain ou bien est-ce qu'il y avait le signe d'un créole plus archaïque, plus ancien? On parle d'ancien français, est-ce que vous parleriez d'ancien créole?
Oui, il y a un créole basilectal, c'est-à-dire un créole très très ancien avec des formulations très anciennes et surtout des modalités d'articulation, de prononciation. Les conteurs parlaient très 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 vite, c'est un rythme incroyable. Il y a différents rythmes et différents tons dans la langue créole. C'est-à-dire que la tonalité peut changer le sens d'un mot. C'est assez particulier.
Vous avez été tenté parfois d'en inventer des contes à partir de cette trame collective?
Non, j'ai pas. Moi, il y a déjà beaucoup de liberté, puisque la trame est très mince. On a toute l'altitude pour déployer une effervescence de l'esprit.
La danse des mots, après avoir croisé la route de Patrick Chamoiseau, a rencontré Fanny Glissant qui, elle aussi, s'intéresse à ce problème de l'esclavage. Elle est documentariste, cinéaste, elle vient de consacrer avec Daniel Cattier et Joan Gelas une série de 4 documentaires qui s'intitule « La route de l'esclavage » sur lesquels d'ailleurs elle a travaillé avec l'historienne Catherine Cochry-Vidrovitch. Alors, elle s'intéresse à préserver ou à constituer une mémoire de l'esclavage. Voilà une expression qu'on entend souvent. J'ai commencé par lui demander ce que ça voulait dire pour elle, la mémoire de l'esclavage.
Déjà, la première chose, c'est que nous, d'abord, on voulait faire un film historique. Hein, et les historiens sont les premiers à se méfier de ce mot de mémoire. Et on voulait faire un film qui s'attachait aux faits, rien qu'aux faits, dans leur dimension économique et surtout rappeler à quel point l'esclavage a été un immense phénomène commercial et surtout qui s'est étendu sur plus de 3 continents. Voilà, c'était ça l'important avant tout. Parce que justement, la mémoire de cette grande histoire humaine est en fait compte assez parcellaire. Alors, pour plusieurs raisons, peut-être parce que sa transmission est assez difficile, peut-être parce qu'elle n'est pas toujours apprise dans les écoles de français d'ailleurs. Hein. Je ne crois pas que ce soit une problématique spécifiquement franco-française. Je pense que tous les pays ont une certaine distance avec la problématique de l'esclavage, parce que tout simplement, l'esclavage, c'est toujours l'histoire des autres. Et quand je dis c'est toujours l'histoire des autres, c'est que pour construire un être humain en esclave, il faut d'abord le construire comme autre, comme celui d'une autre culture, comme le barbare, comme le minoré, comme le subalterne. Et du coup, il y a après...
Une autre culture et parfois même une autre nature. C'est-à-dire que très souvent, quand on réduit une population en esclavage, c'est qu'on va quand même d'abord considérer que ce ne sont pas des hommes et des femmes.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi relégués en dehors du genre humain, en dehors de l'humanité. Je pense que dans cette construction donc d'une histoire qui appartiendrait aux autres, il y a donc cette problématique de comment on la transmet. Et je pense que le mot mémoire traduit la difficulté en fait de la transmission de l'histoire de l'esclavage.
Alors le mot mémoire, il est à la fois très intéressant et très ambigu parce qu'il fait appel au passé, mais il fait aussi appel au présent. C'est-à-dire qu'une mémoire, ça se constitue aujourd'hui. C'est ce qui aujourd'hui nous reste du passé avec le côté fragmentaire, inexact, que ça peut avoir, et en même temps avec le côté quête, avec le côté recherche. Donc, une mémoire, c'est une intention de savoir, d'une certaine façon.
On peut dire ça, mais sur la difficulté des mémoires de l'esclavage, elle est immense, puisque, par exemple, je prends mon exemple personnel. Moi, c'est en travaillant sur ce film, Les routes de l'esclavage, que voilà, ma famille a pu dire. Nous sommes descendants d'esclaves, et tout d'un coup, on me transmet quelque chose que je ne savais pas. Donc, il faut venir la question de la mémoire et la question de la transmission. On me dit, on appartenait au planteur qui s'appelait le sieur Pain, qui était un planteur à Désirade, et donc on me raconte ça. Et on me raconte aussi dans le même temps. Ce qui dit la difficulté de la transmission, on me dit aussi, il se trouve que le sieur Pain a aussi affranchi son fils naturel, et que ce fils naturel se trouve être un de mes ancêtres aussi. Donc, en même temps qu'on m'apprend que je suis descendante d'esclaves du sieur Pain, on m'apprend aussi que je suis descendante de maître. Qu'est-ce que ça dit là ? C'est vraiment qu'on est dans, une problématique d'une histoire pas taboue, mais d'une histoire refoulée. Et du coup, pour moi, le mot de mémoire vient répondre à la question du refoulement. Et donc d'une mémoire qu'il faudrait reconstituer, d'un inconscient de l'esclavage auquel il faudrait faire un sort, j'ai envie de dire. Voilà.
Alors est-ce que pour récupérer ce qui s'est passé, pour faire un sort à l'inconscient, est-ce qu'il faut interroger la façon dont justement cette histoire a été occultée, a été voilée, a été cachée? Est-ce que la façon dont l'histoire a été cachée, parce que l'histoire de l'esclavage l'est toujours, d'une certaine façon c'est à l'honneur des hommes, même les pires d'entre eux en général ne s'en vantent pas, ils le cachent. Est-ce que découvrir comment ça a été caché, ça vous aide justement à construire cette mémoire d'aujourd'hui?
Sans le citer directement, mais je crois que un auteur comme Frantz Fanon qui dit pour ne pas être esclave de son passé, il faut le connaître et le comprendre. Donc interroger les façons dont cette histoire est cachée. C'est, quand je dis refouler, c'est un terme que je choisis de façon très intentionnelle. Je pense pas. Alors évidemment, il peut y avoir des volontés politiques, mais comme il y a des volontés politiques pour restituer l'importance de l'esclavage dans l'apprentissage de notre histoire commune. Et en soi, la loi Taubira est très importante.
Vous nous la rappelez ?
D'abord, elle définit l'esclavage transatlantique et les traites négrières comme étant un crime contre l'humanité, hein, en 2001. Et dans son deuxième article, elle pose quelque chose de très important. Elle dit que cette histoire doit être enseignée dans les écoles françaises parce qu'elle est évidemment une part de l'histoire commune. Voilà. Donc il y a des volontés politiques aussi de restituer cette histoire commune, comme la constitution de grands musées aujourd'hui aux États-Unis, au Brésil, au Portugal, en Angleterre, et même nos musées nationaux à Nantes, et le projet autour de Bordeaux, voilà, et le projet du mur qui va être mis au jardin du Luxembourg. Ce qui dit bien qu'on est dans un temps de réélaboration de cette histoire commune. Voilà.
Alors Fanny Glissant, vous disiez il y a un instant que vous aviez travaillé sur les faits historiques. En fait, comment avez-vous travaillé? Quels ont été les éléments que vous avez découverts? Comment vous y êtes prise pour faire ces films? Et qu'est-ce qui les constitue? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y entend?
Comme l'histoire a été peu racontée, en tout cas dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait... Ce qui est assez particulier sur l'histoire des esclaves, c'est que vous avez plein d'histoires de mystiques. C'est-à-dire que chaque pays a construit son propre rapport à cette histoire. Et nous, ce qui nous intéressait avec Daniel Cattier et Orangela, c'était vraiment de constituer une histoire globale de l'esclavage, de partir du début des traites négrières et d'essayer d'en comprendre et d'embrasser l'abolition. Et du coup, ce qui était important, c'était évidemment d'avoir un film très historien, j'ai envie de dire. Pour nous, c'était d'abord la parole des historiens qui était importante, parce qu'on savait qu'on arrivait à un temps particulier de l'historiographie mondiale, c'est-à-dire un temps où Alors aussi grâce à la loi Taubira, hein, c'est-à-dire que les laboratoires sont sortis d'une compréhension nationale de leur de cette histoire pour commencer à y échanger et à élaborer, j'ai envie de dire, un discours global de ce phénomène immense. Donc nous, on a été, j'ai envie de dire, presque une vingtaine d'années, une quinzaine d'années après cette volonté à partir des années 2000 de constituer cette histoire globale. Et on a récolté tous ces travaux avec des chercheurs émérites, voilà, qui avaient travaillé depuis de longues années, mais aussi des nouveaux chercheurs qui avaient mis toute leur énergie dans ces nouveaux laboratoires qui avaient été montés pour avoir des nouvelles thèses et nouvelles propositions de lecture. Et donc on a été partout dans le monde rencontrer une quarantaine d'historiens pour pouvoir récolter justement le fruit de ces recherches. Et en plus, et ça c'est très important à dire, c'est que sur l'esclavage, quand on s'y intéresse un peu, en fait, il y a pléthore de sources. Elles sont énormes. Elles sont
partout.
Alors
quoi, par exemple ?
Là, vous avez dans les archives départementales les registres de bateaux, les récits d'esclaves, les récits de capitaines de négriers. Vous avez les correspondances entre les administrateurs coloniaux et les métropoles. Vous avez les constats d'assurance. Vous avez voilà. Et vous avez de la photographie, évidemment, qui arrive à partir du 19e siècle et qui est très intéressante, qu'on s'est attaché, en tout cas dans le dernier film, à présenter la richesse photographique et iconographique qu'il y a autour de l'esclavage. Oui. Et même dans les représentations picturales, hein, vous avez déjà la présence de populations africaines qui sont là très tôt. Et par exemple, dans notre deuxième film, on montre à quel point la présence africaine en Europe est importante. Par exemple, au 16e siècle, 10 à 15% de la population de Lisbonne, de Malaga, de Barcelone, de Grenade est noire, est africaine.
Alors que ça, on le sait très peu. En tout cas, on en a très peu fait état jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui ressort justement. C'est ça aussi la mémoire. On en parle plus aujourd'hui que naguère, quoi.
Oui, mais les chemins de la mémoire sont aussi, j'ai envie de dire, des chemins nationaux et spécifiques à chacune des cultures. Par exemple, dans les cultures ibériques, la question du sang est une question centrale et très importante. Et donc, avoir une ascendance servile, c'est quelque chose de discriminant. Et donc, progressivement, on voit que dans les registres de naissance, on va gommer cette présence africaine, cette présence servile, et on va blanchir progressivement le nom et le sang des populations ibériques. Et donc cette mémoire, en fait, on l'a, parce qu'il y a quelque chose qui se transmet et se connaît, mais en même temps, on la gomme. C'est en ça que je parle de refoulement.
Merci bien, Fanny Glissant. Nous voilà maintenant dans la danse des mots à l'heure de la puce.
L'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Alors, est-ce que les esclaves que vous évoquiez précédemment dans l'émission ont servi de bouc émissaire à la communauté blanche ? Il serait peut-être intéressant d'entendre la réponse de vos invités sur ce sujet. Mais la pucelle, elle en dit quoi ? Être un bouc émissaire. Voici donc l'expression du jour que Marie-Dominique Poré va nous aider à déconner. Alors Marie-Dominique Poré, nous l'avions déjà reçue dans la puce pour des expressions autour du latin et du grec, mais aujourd'hui, elle revient avec un nouvel ouvrage qui est paru chez First et qui s'intitule « Vade retro Satanas et 99 autres expressions religieuses ». À ses côtés, la classe de CE1, CE2 de l'école des Épinettes à Paris. Être le bouc émissaire de quelqu'un, on écoute tout de suite leurs propositions.
Un bouc émissaire, ça peut peut-être dire que on est intelligent et on sait tout ce que les autres ne savent pas. On aime bien travailler et on est fier de nous après.
Ça pourrait être un livre parce que dans bouc, c'est comme un bouquin, comme un livre.
Ça veut dire que on devient chef parce qu'on sait très bien cuisiner le bouc.
Ça peut être un bouquet de fleurs et offrir à ta copine, mais en même temps, tu fais n'importe quoi.
Être un bouc émissaire, ça veut peut-être dire être en colère comme un bouc. Ça veut peut-être dire être très très fort, parce qu'un bouc, c'est fort.
On est très très riche, parce que émissaire, ça me fait penser à riche. Ça veut dire que c'est un enfant qui fait la misère partout, parce qu'il y a le mot misère.
C'est être à moitié un bouc et à moitié un cerf.
Ça peut être un cerf qui est fort, super fort, parce que les boucs, c'est très fort.
Être un bouc émissaire, ça veut dire qu'un bouc qui est ami avec un cerf, parce que émis, c'est comme ami.
Alors, les CE1, CE2 de l'école des Épinettes, ils ont beaucoup d'imagination.
C'est
vous
ce
avez
que
entendu,
dire, c'est ce que j'allais
Dominique
dire,
Corée.
C'est ce que j'allais dire, oui, oui.
Book, quand même. Book de bouquin, j'ai trouvé ça
c'est,
très
c'est
fort.
Mignon, c'est l'anglais qui s'immisce encore dans notre langue, hein.
Le bouquet, c'était assez rigolo aussi. Alors.
Émissaire qui devient misère.
Et aussi ami.
Oui, voilà.
Ami pour émissaire, voilà. Amisère.
Et puis richesse, ça finit en S.
Voilà. Donc quand même beaucoup d'idées.
Oui, beaucoup d'idées.
Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un bouc, mais peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est qu'un émissaire.
Un émissaire, c'est quelqu'un mot à mot qui est rejeté. Ça vient du latin mitere, ex, qui veut dire hors d'eux. Donc c'est quelqu'un que l'on rejette du groupe social. À cette époque, c'était un bouc qu'on rejetait parce qu'il était malvenu, il avait commis des fautes et en fait, il devait prendre sur lui, sur ses épaules, toutes les fautes des autres. Et en fait, on croyait qu'on se débarrassait comme ça d'un problème ou d'une maladie en chassant quelqu'un qui partait avec cette mission sur la tête.
Oui, on le charge de tous les péchés, de toute la misère sur sa tête. Et en fait, cette expression trouve son origine dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique. Alors, la citation exacte, c'est « Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. »
Donc, Dieu demande que le grand prêtre, après avoir sacrifié un bouc, prenne un bouc vivant et mette sur la tête de ce bouc tous les péchés du peuple, puis le chasse dans le désert.
Et il le sacrifie.
Puisqu'il va mourir dans le désert.
Voilà, il le sacrifie. Et en principe, on le repoussait, ce bouc, eu égard à son odeur. Il avait une mauvaise odeur. Et donc, parce qu'il avait cette mauvaise odeur, c'était un alibi pour dire qu'il fallait le chasser de la communauté.
Oui, il était coupable. Il était coupable d'une manière ou d'une autre.
Parce que vous savez bien que par ailleurs, autrement, les saints, eux, ont une odeur qui est plutôt agréable. C'est pour ça qu'on dit l'expression être en odeur de sainteté.
Alors, en fait, c'est cette coutume qui a lieu une fois par an, en fait, qui s'appelle Yom Kippour.
Voilà, c'est ça.
Le jour du grand pardon.
C'est le grand pardon, voilà.
Alors, à quel moment cette expression, elle va apparaître, Marie-Dominique Poirel?
Alors, elle a été reprise quand même dans la religion catholique, parce que le principe du Christ rédempteur, qui vient racheter toutes les fautes du monde, est exactement, c'est la reprise de cette idée. Ça, c'est pour le côté religieux. Maintenant, d'un point de vue, on va dire, plus littéraire, on retrouve cette idée de la personne qui va porter sur elle tous les malheurs du monde, ou plutôt qui va essayer, en quelque sorte, d'être une victime expiatoire. C'est dans l'histoire entre Agamemnon, qui partait pour la guerre de Troie, et qui a sacrifier sa fille Iphigénie. Enfin, rassurez-vous, au dernier moment, elle ne sera pas sacrifiée, mais enfin, qui était prêt à la sacrifier, parce que les dieux lui avaient dit que s'il sacrifiait sa fille, ça permettrait à la flotte grecque de gagner la guerre de Troie.
Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à cette expression « être le bouc émissaire de quelqu'un » ?
Alors, moi, j'avais proposé « porter le chapeau ».
Porter le chapeau, c'est bien, oui. Le souffre-douleur.
Alors, être le souffre-douleur d'une société, devenir un paria.
La brebis galeuse, le mouton noir.
Peut-être le mouton noir, oui, celui seul
celui sur lequel on s'acharne,
voilà,
en fait.
Voilà. Ou le vilain petit canard.
La tête de turc.
Oui, prendre quelqu'un pour sa tête de turc, oui.
C'est un peu le punching ball, en fait.
Oui, un petit peu. Oui, tout à fait.
Alors, on retrouve beaucoup cette notion de bouc émissaire, de bouc expiatoire ou même de chèvre d'échappatoire. Il y a quelques variantes, mais l'idée reste globalement la même en Espagne, en Italie, en Suède, en Pologne, en Argentine et même en Angleterre. C'est souvent le cas, en fait, avec les expressions religieuses, puisque c'est des expressions qui ont traversé,
Les peuples. Âges et les peuples.
Eh bien, merci Marie-Dominique Poiré d'être venue nous rendre visite dans la puce. Nous ne sommes ni des boucs émissaires, ni de simples moutons. Mais tout de même, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre ouvrage paru aux éditions First et qui s'intitule « Va des rétro Satanas et 99 autres expressions religieuses ». La prochaine puce, c'est la semaine prochaine, même jour, même heure. Mais vous pouvez d'ici là aller retrouver l'ensemble des expressions diffusées à l'antenne sur le site de RFI Savoir avec un R. En tapant la puce à l'oreille dans le moteur de recherche. À très très bientôt donc.
Eh bien Lucie, merci beaucoup pour cette puce qui terminait la danse des mots d'aujourd'hui, dans laquelle on a entendu donc tour à tour Patrick Chamoiseau et Fanny Glissant dans cette émission qui est proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup,